Chauve-souris est une opérette composée en 42 jours par Johann Strauss fils et créée à Vienne en 1874. Strauss a repris le livret d'une pièce française à succès, Le Réveillon, écrite par les célèbres librettistes français Meillac et Halévy en 1872. Cet énorme succès populaire était très apprécié également des compositeurs comme Offenbach, mais aussi des très sérieux Wagner et Schoenberg, et c'est Gustav Mahler qui l'a fait rentrer au répertoire des opéras. Alors, est-ce une opérette? Un opéra? Nous sommes ici un peu entre les deux, une sorte d'opéra comique qui mélange des passages parlés, du théâtre de boulevard et chantés de l'opéra. Le terme d'opérette est souvent considéré comme péjoratif, un sous-opéra aux qualités musicales médiocres. Ici, la partition regorge de trouvailles mélodiques, d'une diversité de rythmes et d'une richesse de l'orchestration digne des plus grands opéras. Le talent évident du compositeur se cache dans une œuvre légère, tourbillonnante, délirante, où rien n'est pris au sérieux. Le véritable défi ici pour des artistes est de passer sans cesse de la voix parlée à la voix chantée, en se faisant comprendre jusqu'au dernier rang de la salle. Autre question qui se pose nécessairement. Faut-il des comédiens qui chantent ou des chanteurs qui jouent? La difficulté de la partition et de la performance scénique attire les plus grands chanteurs d'opéra dits sérieux. Quelques considérations pratiques maintenant. La version originale de Strauss est en allemand. La version de Laurent Pelli s'inspire du Réveillon et de la traduction faite il y a une quinzaine d'années par Moshe Leiser et Patrice Corrier des parties chantées. Je ne peux vous faire écouter cette version car elle n'existe pas encore. J'ai choisi en grande majorité des extraits de l'enregistrement de 1975 du chef d'orchestre Carlos Kléber qui fait référence. Mais pour faciliter la compréhension de ceux qui auront la chance d'y assister sur place ou dans les nombreux lieux de retransmission, je vous propose d'utiliser les noms français. Eisenstein et Gaillardin, Folk du parquet, Rosalinde, Caroline, le directeur de prison Franck devient Tourion, le notaire Bild est appelé Bidard, et le gardien de prison Froche, au rôle parlé, Léopold. L'action se déroule à Pincornay-les-Bœufs, autant dire Trifouilly-les-Oies, quelque part entre le XIXe siècle et aujourd'hui. J'insiste sur la folie de cette pièce. Ne cherchez pas de grandes réflexions sur la décadence d'une époque, la société, la politique et la lutte des classes qui n'apparaissent qu'en filigrane. Avec nos yeux d'aujourd'hui, tout est critiquable dans cette histoire. Les maris trompent leur épouse et vice-versa. On est loin aussi de l'égalité homme-femme. Les jeunes actrices et danseuses sont prêtes à tout pour sortir de leurs conditions, y compris accepter les avances de vieux riches messieurs. Alors, pour apprécier cette opérette à la hauteur de ses qualités musicales, pensons que c'est une comédie au rythme étourdissant à ne pas prendre du tout au sérieux. Je vais tenter maintenant de vous résumer l'histoire dans ses grandes lignes sans détailler la multitude de rebondissements pittoresques que nous découvrirons au fil des écoutes, en partie seulement, tellement l'œuvre est riche en surprises. L'action se déroule en 24 heures. Elle est découpée en trois actes, trois lieux différents. La maison bourgeoise des Gaillardins, la villa du prince Orlovski où se déroule la fête et la prison dirigée par Tourion. Le point de départ est une histoire de vengeance amicale. Du parquet est le notaire et le compagnon de fête de Gaillardin, un bourgeois rentier. Le spectateur comprend au fil de l'œuvre que le notaire a été la victime d'une farce qu'il a ridiculisée auprès de la société qui l'entoure. Lors d'une fête, déguisé en chauve-souris, il est abandonné ivre par son ami dans le centre de la ville et doit la traverser pour rentrer chez lui dans cet accoutrement. Il met au point sa vengeance machiavélique, faire en sorte que Gaillardin soit pris en flagrant délit d'adultère pendant le bal organisé par le richissime prince Orlovski. Alors voici l'ouverture. Petit rappel. L'ouverture est l'introduction orchestrale d'un opéra. Elle permet au spectateur de se plonger dans l'œuvre. Les lumières s'éteignent, le chef d'orchestre regarde les musiciens, annonce le tempo et nos préoccupations quotidiennes disparaissent instantanément. Nous entrons dans une bulle où le temps devient celui du théâtre et où les voix nous emmènent loin dans les émotions. L'ouverture de la chauve-souris est extrêmement célèbre. Vous allez tous reconnaître la plupart des thèmes. Johann Strauss la compose de façon très astucieuse. Il s'agit d'un pot-pourri des thèmes principaux de l'opéra, une sorte de bande-annonce comme au cinéma. Les 7 thèmes accompagnés de transitions sur un rythme de polka se succèdent sans être développés et font référence à des moments clés du livret. Ce qui est original, c'est qu'ils sont présentés dans le sens inverse de celui de l'histoire, donc de l'acte 3 à l'acte 1. Alors voici l'ouverture. Donc je vous ai dit 7 thèmes dans l'ouverture. Le premier est celui de la vengeance de la chauve-souris. On l'entendra à la fin de l'acte 3 quand la vengeance de Duparquet est accomplie. Gaillardin découvre le piège dont il était l'objet. Écoutez les 3 coups de théâtre martelés fortissimo par tout l'orchestre dans un allegro vivace qui fait souffler un vent de folie sur scène et dans la salle. Le thème est repris plus lentement et tendrement par le hautbois soliste. Déjà, les premiers pas de danse font leur apparition aux cordes. Une conversation amusante s'installe entre les vents et les cordes et provoque les rires. Retour du thème. Ça rappelle la fin de l'acte 2 quand la fête est finie. Ah, voici le thème 2 qui apparaît, c'est le thème de l'interrogatoire. On le réentendra dans l'acte 3 lorsque Gaillardin, déguisé en avocat, interroge sa femme et Alfred, son amant. Avec les pids, il est plus tendre. Avec des petites appoggiatures. Ça, c'est la transition de polka. Et voici le thème 3, c'est le thème de la plaisanterie. Ça, c'est quand Duparquet raconte sa farce. On a des glissando vers des notes piquées qui soulignent la moquerie. Les rires de la plaisanterie. Voici la caisse claire. Flûte piccolo. C'est la polka. On ne sait pas trop si on est à 3 temps, à 2 temps. On ne sait pas trop si on est en ré majeur, en sol majeur. Et voici le thème de la valse, sol majeur. Elle fait son apparition de façon triomphale. Des questions, des réponses. Voici la reprise du thème. Voici le 5e thème, c'est l'explosion de joie, chantée par les invités. On imagine la valse qui s'affole. Transition de polka. Alors l'inquiétude apparaît ici, c'est le thème 6, c'est la plainte de Caroline. Alors on l'écoute ici, c'est un thème important de l'acte 1. Elle fait ses adieux à son mari qui doit entrer en prison. Je vous explique après l'histoire de la prison. Un tempo andante, une tonalité sombre, ce qui est assez rare dans cet opéra. On est donc en mineur et ça invite plutôt au recueillement. Et de nouveau, c'est le hautbois qui exprime le désespoir. Voici les violoncelles qui ajoutent un peu de pathos. Écoutez cette transition au hautbois. Ça montre que finalement ce n'est pas si grave. On passe du legato lié au staccato piqué. Petite transition qui nous mène au dernier thème. Le désespoir cède la place à l'espièglerie et la taquinerie. Voici un rythme de polka enjoué et un peu ironique. Ce drame, hélas, déchire mon cœur. Voici le retour ici. Voilà, le retour ici, ensuite de la réexposition qui reprend quelques-uns des thèmes de cette ouverture. Alors, on arrive à l'acte 1. Je tourne les pages de ma partition. Alors, l'acte 1, je vous le raconte quand même, je vous résume les grands traits de l'acte 1. Il présente les personnages et se déroule dans la demeure bourgeoise de Gaillardin et de son épouse Caroline. Ils ont une servante, Adèle, qui ne rêve que d'une chose, devenir une grande actrice. Au début de l'acte 1, le spectateur fait aussi connaissance avec Alfred, un chanteur d'opéra talentueux qui avait eu une relation amoureuse avec Caroline quelques années avant qu'elle se marie. Il la retrouve par hasard et entreprend alors de la reconquérir, notamment grâce à sa voix de ténor envoûtante. On y apprend aussi que Gaillardin a été condamné à une peine de prison pour outrage de 5 jours, qui est passée à 8 jours à cause de Bidard, son avocat incompétent. Son ami du parquet l'invite alors en secret à la fête du prince Orlovski pour une dernière soirée de débauche avant son incarcération. Ce que Gaillardin ne sait pas, c'est qu'il a aussi invité Adèle et Caroline à la même soirée. Lorsque le directeur de la prison Tourillon vient chercher Gaillardin pour le mener en prison, il trouve Alfred en compagnie de Caroline qui se fait passer pour le maître de la maison. Afin d'éviter le déshonneur de Caroline, il part en prison à sa place. Alors, voici le début de l'acte 1. On entend les cors, roulement de timbales, les altos, second violon, flûte et hautbois. Et on entend Alfred qui chante des coulisses, hein. Avec sa voix de ténor. Les pizzes aux cordes évoquent la mandoline de la sérénade. Voilà, la réponse est une formule mélodique qui confirme les paroles. Courte pause ici, on a l'entrée virtuose et théâtrale dans un grand rire sonore et démonstratif d'Adèle. la flûte, alors voici le leitmotiv, le thème de la fête, qu'on va entendre très souvent. Avec des petits mordants, des petites appoggiatures amusantes. Elle nous raconte la lettre de sa sœur qui l'invite. Retour de la flûte et du thème de la fête. Alors ici, vous allez entendre un thème qui change complètement. On est dans la mélancolie, une sorte de plainte douloureuse d'Adèle. Alors, c'est amusant parce qu'on a entendu la complainte d'Alfred juste avant. Alors, Alfred, lui, rêve d'entrer dans la maison et Adèle, elle, elle rêve d'en sortir. Écoutez la pédale des contrebasses qui appuie cette plainte. Deuxième partie un peu plus dramatique. Elle veut quitter cette maison. Retour du hautbois. Alors Adèle, c'est la femme de chambre. Elle est élevée à la dignité de bourgeoise. Chez Strauss, les deux femmes ont le beau rôle. Elle et puis Caroline, comme finalement chez Mozart dans Les Noces où il y avait Suzanne et la comtesse. Et puis dans le même ordre d'idées, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est Alfred et non Gaillardin qui a la partie de ténor la plus intéressante vocalement parlant. Donc ce sont les serviteurs finalement ou les personnages secondaires qui ont des voix plus importantes. Par exemple Gaillardin, qui est le personnage principal de l'histoire, il ne va jamais chanter aucun air d'opéra. Alors que Adèle et Alfred vont en avoir plusieurs. Alors, passons maintenant alors, on est au trio, toujours dans l'acte 1. C'est un célèbre trio avec Caroline, Adèle et Gaillardin. Caroline fait ses adieux déchirants à son mari qui, rappelons-le, doit effectuer une peine de prison de 8 jours. Alors, je vous donne un peu les paroles pour vous montrer à quel point la traduction est amusante en français. « Hélas, quelle est ma peine, vivre 8 jours sans toi. La prison où l'on te traîne remplit mon cœur d'effroi. Comment vais-je donc faire sans toi à mes côtés? À la vue de ma misère, qui donc aura pitié? Ah, j'aurai l'œil humide au petit déjeuner en voyant toute vide ta tasse de café. Sans mon mari, qui m'aime, qu'importe ?» Ce café tout noir, amer, sans crème. Alors, la complainte de Caroline aux accents pathétiques est composée en do mineur dans une mesure à 3 temps. La famille des bois, notamment clarinette, hautbois et basson, est mise à l'honneur. Écoutons ce trio dans son intégralité avec les belles surprises qu'il comporte. Les pides, les flûtes, les bois, les clarinettes. Les accents pathétiques. Hein. Les cordes en pizzicato. Vous entendez le mouvement contraire là avec le hautbois, c'est vraiment joli. Et là, le thème passe au hautbois. C'est elle qui accompagne la voix. Doublure à la tierce. déjà plus léger, hein. Aujourd'hui, on dirait qu'elle fait sa drama queen ici, quand même. Roulement de timbales. Dramatique. Et voilà, nous voici dans la polka ironique qu'on a entendue dans l'ouverture. Ce drame, hélas, déchire mon cœur. Donc là, ils sont à trois à chanter, hein. Caroline, Adèle et Gaillardin. Alors, première surprise, dramatique, avec le basson au bois. Trémolo. Les vents au complet, les timbales. Et avant le retour de la polka ironique, je vous donne quand même les paroles sur ce drame, hein. Privé de tête à tête, au repas de midi, la soupe d'andouillette, le rôti sans mari. Et pense à mes alarmes, toute seule dans mon lit, inondée de mes larmes. Et voilà, retour ici de la polka. Les grandes vocalises de Caroline. Silence. Reprise du thème un peu variée. C'est Gaillardin ici. Voici Adèle. Alors, je vous donne les paroles d'Adèle. Ce n'est qu'un au revoir, ce n'est qu'un au revoir, etc. Mon Dieu, quelle douleur, hélas, déchire mon cœur. Donc, Adèle, ici, c'est très parodique, hein, c'est majestueux, c'est solennel. C'est un au revoir en ut majeur. Majestueux. La clé au bois, clarinette, basson. Encore la part belle à la famille des bois. Une hésitation de courte durée, parce qu'on revient à la polka. Ce drame, hélas, déchire mon cœur. On les voit danser, hein, battre du pied, et on finit par un contre-ut. Alors, je continue. On arrive ici au final. On arrive au final de l'acte 1. Tout doucement, il est en plusieurs parties. Alors, voici Alfred. Alfred qui chante une chanson à boire, une chanson en 5 thèmes. C'est une chanson populaire. Alors, il faut essayer de comprendre que dans cet opéra, les thèmes sont en général découpés en 2 phrases. On va dire une phrase A, une phrase B. Donc, la phrase B est différente de la phrase A. Puis on a un retour de A, puis on a un retour de B qui est modifié. Donc on a A, B qui change, retour de A et B qui est modifié. Si vous faites attention, dans chacun des thèmes, c'est pratiquement tout le temps comme ça. On appelle ça une forme lead, c'est populaire et donc ça s'applique à pratiquement tous les thèmes. Alors voici la chanson à boire d'Alfred. Les pits, les bois, toujours. Oui. Ça c'est A, ça c'est B, ça c'est A. déprime. Ça, c'est le refrain, c'est le thème de l'oubli dans la boisson qu'ils vont chanter à deux, Alfred et Caroline. Il va arriver. Donc d'abord par Alfred, tout en séduction. Tchin tchin. Voici Caroline. Et à deux, maintenant. Ici, c'est une scène amusante. On a Tourillon, le gardien de prison. Alors, il confond et il prend Alfred pour Gaillardin, puisque Alfred est vêtu de la robe de chambre de Gaillardin et il prend son repas avec Caroline. Alors, écoutons ces extraits, ce petit extrait qui est très amusant. Donc ça, c'est la chanson de Caroline. Elle fait semblant de s'offusquer. Comment ça? Vous pensez que c'est pas mon mari? Vous attentez à l'honneur d'une femme mariée. Hein. Voilà qui est insultant. Et voici la valse ici. La doublure des violons, enjôleur. Voici le trio qui commence. Alfred, Tourillon. Ça, c'est le thème de la prison. Voici Tourillon. Baiser d'adieu, baiser d'adieu. Écoutez-le. C'est très théâtral. Voici le figuralisme du baiser. Là. Avec les flûtes. Donc ça, c'était le figuralisme du baiser, comme un coup de baguette magique. C'est quand même très très bien fait, ce petit passage. Je vous fais écouter le thème de la prison qu'on entend ici dans une danse qui est une sorte de quadrille. Donc ils chantent ensemble cette fois-ci, les trois, le trio. C'est la fin du trio. On sent bien les flûtes, hein, les piccolos. C'est très affirmatif, hein. Voici le contre-truc. Ouais, ça finit en fanfare. Cymbales, cuivre, tambour. Bon, il y a applaudissements, c'est sûr. Voilà, c'est la fin de l'acte 1. Alors, nous arrivons à l'acte 2. L'acte 2, dans lequel se déroulent toutes les péripéties, évolue dans la villa princière d'Orlovski. Gaillardin est présenté sous un faux nom, Il reconnaît sa servante Adèle, qui se présente sous le nom d'Olga, une actrice qui cherche un mécène. Elle est en compagnie de sa sœur Ida, qui est danseuse. Le plan de Duparquet risque alors de s'effondrer, mais Adèle fait preuve d'audace et tourne en ridicule les remarques de Gaillardin. Le directeur de prison est lui aussi présenté sous un faux nom. Enfin, Caroline est déguisée en riche comtesse hongroise, avec un masque, et c'est très bien réalisé dans la mise en scène de Pélie, qui la rend méconnaissable. Orlovski ordonne aux invités de s'enivrer. Le champagne coule à flot, on bascule alors dans une fête complètement débridée où les personnages quittent leur rang social dans un lâcher-prise total de carnaval. Le plan de la chauve-souris fonctionne à merveille, Gaillardin séduit la comtesse hongroise qui, je vous le rappelle, est sa femme. Celle-ci lui confisque sa montre dans une scène très amusante. Ce sera plus tard la preuve incontestable de l'adultère de son mari. Et l'horloge sonne 6 heures du matin. Alors, je vais vous faire écouter le début de l'acte 2. On est au cœur de la fête organisée par Duparquet pour le prince Orlovski dans sa grande villa luxueuse. Imaginez une fête sans morale. Un carnaval où chacun peut être librement celui qu'il souhaite le temps d'une soirée. L'intrigue est pour Strauss le prétexte à l'omniprésence de la danse. Un rythme de polka de nouveau, avec les cymbales qui appuient. Vous reconnaissez le thème de la fête ? Donc là, c'est le chœur, hein, chœur mixte. Et le thème de la fête. Alors voici, ici c'est un passage qui est très intéressant, c'est la chanson d'Orlovski. Donc voici Orlovski qui va chanter sa grande chanson, c'est un chant folklorique. Le prince russe Orlovski est un personnage haut en couleur. Dans le livret, il est très jeune, 18 ans, et se montre particulièrement blasé. Il ne sait que faire de sa richesse et tout l'ennui. C'est un dandy décadent qui ordonne à ses invités de s'amuser, de danser et de boire sous peine de se voir chasser de la fête. Strauss a choisi la tessiture de mezzo-soprano pour ce rôle. Il est donc interprété par une femme et le personnage est travesti. Dans la version de Carlos Kleiber, c'est un homme qui chante avec une voix de fausset. À Lille, c'est la mezzo-soprano Héloïse Mas, qu'on a déjà entendue dans le rôle de Robin Luron dans Le Roi Carotte d'Offenbach. Alors j'ai choisi de vous faire écouter la version de la mezzo-soprano Brigitte Fassbender, célèbre pour ses interprétations de Carmen ou Brangane dans Tristan et Isolde de Wagner. Autant dire qu'elle quitte les rôles tragiques pour s'amuser follement ici. Écoutons les couplets d'Orlovski qui s'achèvent sur sa devise « Chacun son goût », qu'on en réentendra à la toute fin de l'opéra, qui agit comme un ordre « Faites ce que vous voulez ». Ce qui est drôle, c'est le saut de cartes qui évoque le hockey, à moins que ce ne soit la voix qui mue. Encore une belle trouvaille de Strauss. Ici. Flûte, piccolo. Ici, une marche solennelle un peu plus lente. Écoutez les roulements de timbales théâtrales. Une phrase de transition. Pose des questions et voici la réponse. Je réponds selon ma devise, chacun a son goût. Voici le grand air de Caroline. Il est placé au centre de l'opéra. Elle doit prouver que c'est une comtesse hongroise. C'est l'occasion pour Strauss de composer une danse folklorique hongroise populaire qu'on appelle la Csárdás, qui signifie « auberge », le lieu où elle était chantée. Elle est en deux parties contrastées et elle dévoile les deux aspects de l'âme hongroise. On a la mélancolie dans un tempo lent et théâtral et le tempérament volcanique dans un allegro frénétique. Elle débute par la clarinette soliste qui représente l'Europe de l'Est. En si mineur. Flûte, hautbois, clarinette, clarinette basse, pizz, si mineur. Les flûtes à la tierce, théâtrale. Ça, c'est très lyrique, hein, c'est patriotique. Flûte à la tierce, toujours très théâtral. Ici, par exemple. Le sol hongrois, eau gris, Hongrie, eau doux, pays de mes aïeux. Avec le tambourin. Alors on arrive à la deuxième partie. La voici. Voici le feu qui invite à la boisson, à la danse, à l'amour. C'est une avalanche frénétique de chants et de danse, extrêmement virtuose. Ça finit dans les trilles. Et là, on va jusqu'au contre-ré. Voilà, donc ça, c'est vraiment le grand moment de l'opéra. En tout cas, pour la chanteuse. Hein. très impressionnant. Alors, on arrive à la fin de l'acte 2. C'est l'hymne au champagne. C'est le morceau le plus brillant de l'opéra. Il prend la forme d'une chanson découpée en 3 strophes. Orlovski célèbre cette mousse légère qui pétille dans son verre. Adèle y ajoute une connotation un peu plus politique. Quand la révolte gronde, les monarques du monde distribuent du champagne pour calmer les campagnes. Écoutons le couplet de Gaillardin qui décrit le moine dans sa cellule qui se remplit de bulles. Flûte piccolo, toujours. C'est un galop, ça. Le chœur, trincon. Ça, c'est une sorte de yodel. C'est le thème du champagne. Et applaudissements, c'est sûr. De nouveau. Alors, je n'ai pas le temps de vous faire écouter tout le final de l'acte 2 qui est vraiment très réussi et très amusant. Mais voici quand même une page magnifique qui contraste avec l'ambiance opéra-bouffe-opérette. C'est ici un moment suspendu qui célèbre le bonheur simple d'un amour doux pour le cœur. Le tempo est modéré, nous sommes en fa majeur, lumineux. Le canon commence à 3 voix. Orlovski, Gaillardin, Duparquet et Tourillon, puis l'entrée des femmes, Caroline, Adèle et sa sœur Ida, puis les danseuses, Ami. Le canon s'étend également aux cordes et bois. L'écriture contrapuntique se fait savante. On y reconnaît là sans doute l'influence d'Offenbach qui proposait ce genre de page orchestrale. C'est une ode à la douceur. Deuxième partie un peu plus sautillante. Question, réponse, la valse s'installe. Petite transition, un baiser c'est si doux. Passagère qui crée un moment suspendu ici qui nous mène à un pianissimo. On alterne les nuances. La danse qui revient. Contrude de Caroline. Et on finit par une cadence parfaite. Et applaudissements, oui, vous avez compris. Alors, on arrive à l'acte 3. Je vous raconte un petit peu ce qui se passe dans l'acte 3. C'est le lieu de dénouement des quiproquos. C'est le lieu de dénouement des quiproquos qui se déroule dans la prison dirigée par Tourillon. Léopold, le gardien de prison, est aussi ivre que son directeur. Rappelons qu'Alfred est emprisonné à la place de Gaillardin. Les personnages arrivent un par un. D'abord Adèle et sa sœur, puis Gaillardin vient se livrer au petit matin pour purger sa peine de prison. Tourillon n'y comprend plus rien. C'est le tour de Caroline qui retrouve son rôle d'épouse et du notaire du parquet qui vient accompagner Dorlovski et des convives pour savourer sa vengeance. Gaillardin comprend que l'amant de sa femme est en prison à sa place, il prend les habits de son avocat Bidard pour les confondre. Grâce à la montre, Gaillardin est pris en flagrant délit d'adultère et ne peut plus en vouloir à son épouse. Comme personne n'est vraiment totalement innocent dans cette histoire, elle se termine dans la légèreté et les rires. Rappelez-vous, donc Tourillon est complètement ivre. Il doit reprendre ses fonctions au petit matin. Il marmonne, il bâille, il ronfle aussi. Et ce qui est génial, c'est qu'il siffle le thème de la joie. La deuxième partie de la valse, dont on entend des réminiscences d'ailleurs. Aujourd'hui, on parlerait de la technique du Mickey Mousing qui est utilisée surtout dans les dessins animés où chaque geste est accompagné d'un geste musical. On est donc ici au début, on appelle ça le mélodrame du début de l'acte 3. Au bois, clarinette, le tourillon est saoul. Voici le thème de la prison qu'on a déjà entendu. La prison est une sorte de volière. La valse. C'est génial ici. Écoutez le basson qui va rejouer le thème. Retour de la valse que vous allez reconnaître. Ça, c'est le thème du champagne. Violoncelle et contrebasse. Et reconnaissez le thème de la fête. Ça, c'est la polka de la deuxième partie. La flûte. Écoutez les effets du basson. On dirait qu'ils évoquent les pas peu assurés de Tourillon. La trompette. Repris par la contrebasse. Et il ronfle. Alors, Adèle sait qu'elle a perdu sa place de femme de chambre hein, chez les Gaillardins, ça c'est sûr. Elle veut devenir artiste. Mais pour cela, une seule solution s'impose. Être entretenue par un homme. Alors, elle pense au Chevalier Chagrin, qui est le nom d'emprunt de Tourillon. Et ce serait parfait. Elle improvise une audition et joue trois personnages de comédies différents. C'est le morceau de bravoure d'Adèle, qui est tout en séduction. L'interprète déploie ses talents vocaux, mais aussi de comédienne. Voici les trois personnages qu'elle interprète. Le premier, c'est le personnage de l'ingénu. Donc, c'est le deuxième grand air d'Adèle. Hein. Voici le refrain de sa chanson. Avec les sauts d'octave, les trilles. Ici, elle reprend son rôle. C'est elle, Adèle, qui parle. C'est plus un personnage qu'elle joue. C'est plus lyrique, plus legato. Elle parle de son talent. Alors, dans le deuxième couplet, elle prend le rôle d'une reine. Alors, on a une marche avec les trompettes. C'est plus solennel. Alors là, c'est excellent. On va voir Ida qui imite la trompette et Tourillon le tambour. Devient elle-même, là, Adèle. Vous voyez bien qu'un tel talent, faut pas s'en priver. Dans le troisième couplet, c'est une dame de Paris. Alors, elle est malicieuse, elle est légère, elle est aux prises avec son amant et son mari. Des roulades, des trilles, des vocalises, des gammes, des arpèges. Et la marche pour finir. Voilà, alors on arrive au dénouement de l'intrigue. Écoutons la fin du trio entre Caroline, Alfred et Gaillardin. C'est une scène de pur vaudeville avec le moment fatidique, vous savez, ciel mon mari. Alors on entre pour quelques instants dans l'opéra Seria avec les trémolos des cordes et le fameux thème de la vengeance entendu au début de l'ouverture. Là, on est chez Don Juan. Ouais. Deux, trois. Ça, c'est le début de l'ouverture de l'opéra. On a des trompettes, des trombones. Bon, là, on revient dans le registre de la comédie. Voici le final de l'acte 3, avec tous les protagonistes et le chœur. Il débute par le thème de la chauve-souris à deux temps, puis vous allez reconnaître celui de la plaisanterie, car l'opéra se termine sur les rires et la légèreté, celui qui accompagne la devise d'Orlovski, chacun son goût, et enfin celui du champagne. C'est le thème de la chauve-souris. La plaisanterie. Ça, c'est la voix de Fossé d'Orlovski dans la version Kleiber. J'agis selon ma devise.
Rosalinde, verzeih deinen treuen Gabriel. Du siehst, nur der Champagner war an allem schuld.
C'est la faute au champagne. C'est Caroline qui chante. Merci pour votre écoute et bonne représentation.